Il s'éveilla tard, il avait faim, il essaya de se rendormir pour ne se lever qu'à 2 heures, puis il se dit « Cela ne m'avance à rien, il faut toujours que je finisse par découvrir de l'argent. » Puis il sortit, espérant qu'une idée lui viendrait dans la rue. Il ne lui en vint pas, mais en passant devant chaque restaurant, un désir ardent de manger lui mouillait la bouche de salive. À midi, comme il n'avait rien imaginé, il se décida brusquement « Bah, je vais déjeuner sur les 20 francs de Clotilde, cela ne m'empêchera pas de les lui rendre demain. » Il déjeuna donc dans une brasserie pour 2,50 francs. En entrant au journal, il remit encore 3 francs à l'huissier. « Tenez, Foucard, voici ce que vous m'avez prêté hier soir pour ma voiture. » Et il travailla jusqu'à 7 heures. Puis il alla dîner et prit de nouveau 3 francs sur le même argent. Les 2 bocs de la soirée portèrent à 9 francs 30 centimes sa dépense du jour. Mais comme il ne pouvait se refaire un crédit, ni se recréer des ressources en 24 heures, il emprunta encore 6,50 francs le lendemain sur les 20 francs qu'il devait rendre le soir même, de sorte qu'il vint au rendez-vous convenu avec 4,20 francs dans sa poche. Il était d'une humeur de chien enragé et se promettait bien de faire net tout de suite la situation. Il dirait à sa maîtresse, tu sais, « J'ai trouvé les 20 francs que tu as mis dans ma poche l'autre jour. Je ne te les rends pas aujourd'hui, parce que ma position n'a point changé et que je n'ai pas eu le temps de m'occuper de la question d'argent, mais je te les remettrai la première fois que nous nous verrons. » Elle arriva, tendre, empressée, pleine de crainte. Comment allait-il la recevoir? Elle l'embrassa avec persistance pour éviter une explication dans les premiers moments. Il se disait de son côté « Il sera bien temps tout à l'heure d'aborder la question. Je vais chercher un joint. » Il ne trouva pas de joint et ne dit rien, reculant devant les premiers mots à prononcer sur ce sujet délicat. Elle ne parla point de sortir et fut charmante de toute façon. Ils se séparèrent vers minuit, après avoir pris rendez-vous seulement pour le mercredi de la semaine suivante, car Madame de Marelle avait plusieurs dîners en ville de suite. Le lendemain, en payant son déjeuner, comme Duroy cherchait les 4 pièces de monnaie qui devaient lui rester, il s'aperçut qu'elles étaient 5, dont une en or. Au premier moment, il crut qu'on lui avait rendu la veille 20 francs par mégarde. Puis il comprit. Et il sentit une palpitation de cœur sous l'humiliation de cette aumône persévérante. Comme il regretta de n'avoir rien dit. S'il avait parlé avec énergie, cela ne serait point arrivé. Pendant 4 jours, il fit des démarches et des efforts aussi nombreux qu'inutiles pour se procurer 5 louis. Et il mangea le second de Clotilde. Elle trouva moyen, bien qu'il lui eût dit d'un air furieux « Tu sais, ne recommence pas la plaisanterie des autres soirs, parce que je me fâcherai », de glisser encore 20 francs dans la poche de son pantalon la première fois qu'ils se rencontrèrent. Quand il les découvrit, il jura « Nom de Dieu !» et il les transporta dans son gilet pour les avoir sous la main car il se trouvait sans un centime. Il apaisait sa conscience par ce raisonnement « Je lui rendrai le tout en bloc. Ce n'est en somme que de l'argent prêté. » Enfin, le caissier du journal, sur ses prières désespérées, consentit à lui donner 100 sous par jour. C'était tout juste assez pour manger, mais pas assez pour restituer 60 francs. Or, comme Clotilde fut reprise de sa rage pour les excursions nocturnes dans tous les lieux suspects de Paris, il finit par ne plus s'irriter outre mesure de trouver un jaunet dans une de ses poches, un jour même dans sa bottine et un autre jour dans la boîte de sa montre, après leurs promenades aventureuses. Puisqu'elle avait des envies qu'il ne pouvait satisfaire dans le moment, n'était-il pas naturel qu'elle les payât plutôt que de s'en priver? Il tenait compte d'ailleurs de tout ce qu'il recevait ainsi, pour le lui restituer un jour. Un soir, elle lui dit « Croiras-tu que je n'ai jamais été aux Folies Bergères? Veux-tu m'y mener ?» Il hésita, dans la crainte de rencontrer Rachel. Puis il pensa « Bah, je ne suis pas marié après tout. Si l'autre me voit, elle comprendra la situation et ne me parlera pas. D'ailleurs, nous prendrons une loge. » Une raison aussi le décida. Il était bien aise de cette occasion d'offrir à Madame de Marelle une loge au théâtre sans rien payer. C'était là une sorte de compensation. Il laissa d'abord Clotilde dans la voiture pour aller chercher le coupon afin qu'elle ne vît pas qu'on le lui offrait, puis il la vint prendre, et ils entrèrent, salués par les contrôleurs. Une foule énorme encombrait le promenoir. Ils eurent grand-peine à passer à travers la cohue des hommes et des rôdeuses. Ils atteignirent enfin leur case et s'installèrent, enfermés entre l'orchestre immobile et le remous de la galerie. Mais Madame de Marelle ne regardait guère la scène, uniquement préoccupée des filles qui circulaient derrière son dos. Et elle se retournait sans cesse pour les voir, avec une envie de les toucher, de palper leur corsage, leurs joues, leurs cheveux, pour savoir comment c'était fait, ces êtres-là. Elle dit soudain « Il y a une grosse brune qui nous regarde tout le temps. J'ai cru tout à l'heure qu'elle allait nous parler. L'as-tu vue ?» Il répondit « Non, tu dois te tromper. » Mais il l'avait aperçue depuis longtemps déjà. C'était Rachel qui rôdait autour d'eux avec une colère dans les yeux et des mots violents sur les lèvres. Duroy l'avait frôlée tout à l'heure en traversant la foule. Elle lui avait dit « Bonjour » tout bas, avec un clignement d'œil qui signifiait « Je comprends ». Mais il n'avait point répondu à cette gentillesse dans la crainte d'être vu par sa maîtresse. Et il avait passé froidement le front haut, la lèvre dédaigneuse. La fille, qu'une jalousie inconsciente aiguillonnait déjà, revint sur ses pas, le frôla de nouveau et prononça d'une voix plus forte « Bonjour, Georges !» Il n'avait encore rien répondu. Alors elle s'était obstinée à être reconnue, saluée, et elle revenait sans cesse derrière la loge, attendant un moment favorable. Dès qu'elle s'aperçut que Madame de Marelle la regardait, elle toucha du bout du doigt l'épaule de Duroy. « Bonjour, tu vas bien ?» Mais il ne se retourna pas. Elle reprit « Eh bien, es-tu devenu sourd depuis jeudi ?» Il ne répondit point, affectant un air de mépris qui l'empêchait de se compromettre, même par un mot, avec cette drôlesse. Elle se mit à rire, d'un rire de rage, et dit « Te voilà donc muet. Madame t'a peut-être mordu la langue ?» Il fit un geste furieux, et d'une voix exaspérée « Qui est-ce qui vous permet de parler ? Filez, ou je vous fais arrêter. » Alors, le regard enflammé, la gorge gonflée, elle gueula « Ah, c'est comme ça! Va donc, mufle! Quand on couche avec une femme, on la salue au moins! C'est pas une raison parce que t'es avec une autre pour ne pas me reconnaître aujourd'hui! Si tu m'avais seulement fait un signe quand j'ai passé contre toi, tout à l'heure, je t'aurais laissé tranquille! Mais t'as voulu faire le fier! Attends, va! Je vais te servir, moi! Ha! Tu ne me dis seulement pas bonjour quand je te rencontre !» Elle aurait crié longtemps. Mais Madame de Marelle avait ouvert la porte de la loge et elle se sauvait, à travers la foule, cherchant éperdument la sortie. Duroy s'était élancé derrière elle et s'efforçait de la rejoindre. Alors Rachel, les voyant fuir, hurla triomphante « Arrêtez-la ! Arrêtez-la ! Elle m'a volé mon amant !» Des rires coururent dans le public. Deux messieurs, pour plaisanter, saisirent par les épaules la fugitive et voulurent l'emmener en cherchant à l'embrasser. Mais Duroy, l'ayant rattrapée, la dégagea violemment et l'entraîna dans la rue. Elle s'élança dans un fiacre vide, arrêté devant l'établissement. Il y sauta derrière elle et, comme le cocher demandait « Où faut-il aller, bourgeois ?» Il répondit « Où vous voudrez. » La voiture se mit en route lentement, secouée par les pavés. Clotilde, en proie à une sorte de crise nerveuse, les mains sur sa face, étouffée, suffoquée. Et Duroy ne savait que faire ni que dire. À la fin, comme il l'entendait pleurer, il bégaya. « Écoute, Clo, ma petite Clo, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ma faute. J'ai connu cette femme-là autrefois, dans les premiers temps. » Elle dégagea brusquement son visage et saisie par une rage de femme amoureuse et trahie, une rage furieuse qui lui rendit la parole, elle balbutia par phrases rapides, hachées, en haletant. « Ah, misérable, misérable, quel gueux tu fais. Est-ce possible? Quelle honte! Ah, oh, mon Dieu, quelle honte !» Puis, s'emportant de plus en plus, à mesure que les idées s'éclaircissaient en elle et que les arguments lui venaient, « C'est avec mon argent que tu l'as payé, n'est-ce pas ? Et je lui donnais de l'argent pour cette fille. Oh, le misérable! Elle sembla chercher, pendant quelques secondes, un autre mot plus fort qui ne venait point. Puis soudain, elle expectora avec le mouvement qu'on fait pour cracher. Ah, oh, cochon! 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 Tu l'as payé avec mon argent, hein? Cochon! Cochon! Elle ne trouvait plus autre chose et répétait « Cochon! Cochon !» Tout à coup, elle se pencha dehors et, saisissant le cocher par sa manche, « Arrêtez !» Puis, ouvrant la portière, elle sauta dans la rue. Georges voulut la suivre, mais elle cria « Je te défends de descendre !» d'une voix si forte que les passants se massèrent autour d'elle. Et Duroy ne bougea point par crainte d'un scandale. Alors elle tira sa bourse de sa poche et chercha de la monnaie à la lueur de la lanterne. Puis ayant pris 2,50 francs, elle les mit dans les mains du cocher en lui disant d'un ton vibrant « Tenez, voilà votre heure, c'est moi qui paye. Et reconduisez-moi ce salaud-là rue Bourseau, au Batignolles. » Une gaieté s'éleva dans le groupe qui l'entourait. Un monsieur dit « Bravo la petite !» Et un jeune voyou arrêté entre les roues du fiacre, enfonçant sa tête dans la portière ouverte, cria avec un accent suraigu « Bonsoir Bibi !» Puis la voiture se remit en marche, poursuivie par des rires.